Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Tu me fais rire là. On est parti là.
Je ne sais pas si on va vraiment rire complètement parce que dans la première partie de cette émission,
oui,
on a avec nous Ariane Hébert qui est psychologue. Et là, elle va nous faire prendre conscience des effets des écrans sur le cerveau des petits et des plus grands. Et je me rends compte que depuis le confinement, je suis beaucoup plus avec ma tablette ou mon téléphone. Et j'y étais déjà pas mal avant. Donc j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire là-dessus. Je pense pas qu'elle va me faire rire.
Moi, je préfère ne pas te parler de ça concernant toi, même effectivement.
Et la deuxième partie.
En deuxième partie d'émission, on va recevoir Geneviève Daigneau, co-porte-parole de Laval en transition, qui fait, comment dirais-je, un forum environnemental à Laval depuis le 29 janvier jusqu'au 12 mars. Elle sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous parler de ce moment d'environnement. Oui. Allez, on parle tout de suite en musique, Arlette.
Alors, on part tout de suite en musique avec Eva qui nous chante Chelou.
Comment rebondir après un tel succès? Je ne sais pas quoi répondre. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Aucun parti à défendre. Souvent, je suis ailleurs. Faut pas que tu le prennes. Cherche juste la faille. Et tu sais que je n'endors plus le soir. On dit ce qu'on vit. Il parle dans le vide. On dit ce qu'on vit. Il parle dans le vide. Choisis ton camp, j'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment? Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Comment grandir après un tel échec? Moi j'ai jamais changé le fusil d'épaule. J'suis toujours restée la même, mes succès ramènent problème. Choisis ton camp, j'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment? Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Tu fais des trucs gros chelous, gros chelous, trucs gros chelous. Je sais ce que j'ai à faire, ils n'ont qu'à me juger. Ils n'ont qu'à me juger, qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai déjà prouvé. J'ai déjà prouvé, je sais ce que j'ai à faire. Ils n'ont qu'à me juger.
Ils n'ont qu'à me juger.
Ils n'ont qu'à me juger, qu'ils disent ce qu'ils veulent. J'ai déjà prouvé.
J'ai déjà prouvé.
Choisis ton camp. J'ai la recette, perdons pas de temps. On fait comment? J'ai la recette, on fait comment? Tu fais des trucs gros chelous.
Alors, comme je vous le disais il y a un instant, eh bien, est-ce qu'on garde nos téléphones et nos écrans? En plus de ça, Ariane Hébert, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Ariane
j'ai
Hébert.
J'ai parlé, Ariane, du sujet qui va avoir lieu, c'est-à-dire de l'effet des écrans sur le cerveau des petits et des plus grands. Mmh. Et je me rends compte, Ariane, que j'ai ma tablette d'ouverte et mon téléphone d'ouvert à côté de moi.
Bien sûr, ça fait partie du normal maintenant. Pourquoi vivre ça? Oui, ben écoutez, en fait, c'est ça, le hic, c'est que des écrans nous gardent facilement captifs. Oui. Alors, et puis ça commence de plus en plus tôt. Hein. Avant, on avait une espèce de norme dans la société où on savait pertinemment que les tout-petits ne devaient pas passer trop de temps devant la télé et les écrans. Maintenant que c'est rendu tellement accessible et facile, ça devient des bonnes gardiennes au restaurant ou ça devient des entertainers d'après-midi où on doit travailler.
Complètement.
Alors, donc, de plus en plus. Et il y a beaucoup de gens qui me questionnent à savoir, ben, c'est quoi le temps que ça devrait, qu'on devrait permettre pour les enfants et puis dans quelles conditions. Et donc, les parents s'inquiètent quand même, sont conscients des effets néfastes que ça peut avoir et questionnent par rapport aux lignes directrices qu'on devrait suivre au niveau du temps d'écran. Ce à quoi je réponds toujours, ben, en fait, à partir du moment où tu sais à quoi tu exposes ton enfant, après, en tant que parent, mieux comprendre et déterminer. Donc, première chose à laquelle ça expose les enfants, les écrans, c'est que ça diminue leur capacité à développer leur attention volontaire. La raison est simple, c'est que le cerveau est ainsi fait que on est constamment, notre cerveau, de façon très involontaire, en fait, est constamment à la recherche de ce qui est le plus saillant dans l'environnement. Donc, ce qui va sortir de la masse, et c'est un principe de survie. Je dois toujours avoir une vigilance accrue pour voir si quelque chose s'en vient dans ma direction, s'il y a une menace qui est présente. Donc, naturellement, par exemple, si je me promène dans un champ et que tout d'un coup, à travers les herbes vertes, je vois un objet brun qui se promène, ben mon regard va être attiré vers cet objet-là beaucoup plus que tout le reste du paysage. C'est ça qui devient saillant. Mon cerveau dirige toute son attention vers cet élément-là. Les écrans, ce que ça présente à notre cerveau, c'est constamment des stimuli saillants. Donc, il y a de la couleur, il y a de l'action, il y a du bruit. Et puis, pensez par exemple aux vidéos qui sont produites pour les petits. Là, il y a vraiment des firmes là, qui s'emploient à produire des vidéos intentionnellement dirigées vers les 2-5 ans. Et c'est une ribambelle de couleurs et de sons. Et il y a une répétition aussi parce que les enfants aiment le rythmique, ce qui revient. Donc, ça les garde vraiment très intéressés par rapport à leur environnement, pardon, parce que c'est effectivement beaucoup plus saillant que tout ce qui se passe autour. Donc, ça prend un effort volontaire hyper exigeant pour détourner son attention de l'écran. C'est vrai aussi pour nous adultes, là, mais je vous parle tout d'abord des enfants. Donc, ça prend vraiment un effort important. Et d'autre part, c'est que l'enfant, son cerveau, à tout le moins, s'habitue à être extrêmement stimulé par des images comme ça et par sa capacité à, par lui-même, aller mobiliser son attention vers des choses justement qui sont un peu moins stimulantes. Alors, on devient comme un peu passif et on attend d'être stimulé ou d'être capté plutôt que d'apprendre à diriger notre attention et à s'investir dans un processus volontaire pour s'engager dans une activité intellectuelle ou autre. Donc, ça a un impact quand même majeur. Des fois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est en lien avec le déficit d'attention qui est en hausse chez les jeunes? On n'a pas d'études qui le confirment, mais il y a beaucoup de chercheurs qui pointent dans cette direction-là en disant, écoutez, c'est sûr que si, par exemple, vous faites concurrence entre un professeur et une vidéo YouTube,
ah ben oui.
Lequel des deux est plus stimulant, est plus rythmé, est plus engageant au plan de l'attention?
À part si c'est un prof vraiment stimulant, ben, je dirais YouTube.
exact. Il faudrait que le prof fasse le clown à tout moment, puis sorte un lapin de son chapeau. Mais c'est vrai aussi, donc, pour nous adultes. C'est-à-dire que plus on s'habitue à nos écrans et plus tout ce qui est temps de latence, tout ce qui est investissement personnel de notre attention, ça devient de plus en plus exigeant. On devient plus paresseux. Donc, là, vous me dites, puis je veux pas que vous vous sentiez visé. Mais vous me dites, là, j'ai mon téléphone, j'ai ma tablette.
Oui.
Ben, effectivement, parce que regarder dans le vide, puis attendre un peu de façon passive, laisser aller votre imagination ou voguer dans vos pensées, ça fait plus partie du quotidien d'une grande proportion de gens. On est habitué d'avoir toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Donc,
bien sûr.
Une image qui va défiler, une information. Et vous remarquerez, par exemple, des ados, des jeunes adultes qui regardent le cellulaire. Là. Encore là, je ne veux pas vous vexer, là, mais je suis prête à parier que vous n'avez pas la même façon de regarder votre cellulaire que ma jeune de 17 ans qui scrolle d'une vitesse effrayante que moi, je ne suis même pas capable de saisir les images qu'elle voit défiler sous ses yeux, mais elle a l'habitude. Et donc, cette hyper accumulation-là est rendue partie du quotidien. Donc, on baigne constamment là-dedans. Alors, même pour nous, adultes, ça a cet impact-là, de dire, à partir du moment où je vis un temps de latence, est-ce que je peux m'engager volontairement dans une activité qui est peut-être moins stimulante, mais qui va me permettre d'approfondir ma pensée? Parce que en restant comme ça avec des stimuli externes, ben ça nous permet pas d'accéder à une pensée qui est plus étoffée, qui est plus approfondie, qui est plus réfléchie. Alors, on reste en quelque sorte en surface de nos capacités intellectuelles et cognitives, là, donc plutôt que de plonger dans une vraie réflexion. Mais c'est plus ça amène plus de thrill, ça amène plus de d'excitabilité et tout. Donc c'est la voie facile.
Ben oui. Je suis d'accord que je suis pas au niveau de votre ado, mais par contre, je me rends compte que en le laissant je me rends compte, par exemple, que sous prétexte de faire mes recherches pendant que je suis en émission, sous prétexte d'avoir sous les yeux mon questionnement, mes trucs, tout est toujours ouvert. Et que le soir, quand j'arrive pas à m'endormir, c'est ce que je vais prendre pour regarder une série sur Netflix. Mais on va en parler tout de suite après la pause musicale. Mais ça fait aussi partie de ça. Je trouve que depuis le confinement, en tout cas je parle personnellement, moi j'ai pris encore plus de temps sur mes écrans. Voilà. On s'en parle tout de suite après ça. Mais c'est ce que j'en ai jugé. Je trouve que le confinement ne m'a pas aidé, n'a pas aidé mes yeux non plus.
Exact.
Donc, on part en musique avec Maëzo qui nous chante Les Chocolatines. Et après, on retrouve Ariane Hébert et on continue à en parler. Puis cette fois, pour nous les grands aussi, on va poser des questions. Merci Ariane. Okay.
Beauté de la jeunesse, on les voit partout, c'est inhumain. Quand revient le printemps, elles passent sur le chemin. Dans leurs robes légères, elles ont des rendez-vous, c'est leur destin. Le geste et l'élan vers des lendemains. Moi, je préfère les chocolatines. Moi, je préfère les chocolatines. Le sourire aux lèvres, le parfum dans leur cou, ça c'est trop bien. Passer ce moment, c'est presque un câlin. Hey!
Alors Ariane Hébert est toujours avec nous. Ariane, pour parler des... quand on parle des écrans, certaines personnes pensent que c'est qu'on parle de genre tablette, téléphone, alors que la télévision fait aussi partie des écrans qui apportent des problèmes.
Oui, exact. En fait, remarquez que la télévision, souvent les émissions qu'on va nous présenter, on est moins bombardé que, par exemple, à travers un jeu vidéo ou à travers justement des médias comme YouTube, des choses comme ça. Donc, mais ça reste que ça a un impact quand même. Et oui, l'autre chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est que notre cerveau, dans sa version primitive, le cerveau reptilien, la zone qui est responsable justement de gérer les menaces puis de nous garder en survie, oui, il est très mauvais pour distinguer ce qui est de la fiction de ce qui est de la réalité. Et donc, il va commander des réactions physiologiques, que ce soit une réelle situation que l'individu vit ou que ce soit une situation virtuelle. Donc, par exemple, si vous êtes, disons, engagé dans un jeu vidéo dans lequel vous combattez, votre cerveau a l'impression que vous êtes en train de réellement combattre dans la vraie vie, alors va envoyer des décharges d'hormones comme l'adrénaline, notamment, pour vous garder en énergie et donc va envoyer toutes sortes d'hormones qui vont créer un effet dans votre corps et le cortisol qui va vous amener un ultra-focus pour être capable de bien vous défendre et de garder votre attention sur la cible. Et une fois que vous sortez de ce jeu vidéo-là, eh bien, il a enregistré que vous venez de combattre de façon réelle. Et là, cette baisse tranquille d'hormones dans votre sang va créer un état de manque, mais un état aussi d'irritabilité, un état de non-disponibilité à votre environnement, somme toute. Et ça peut avoir des impacts très importants, notamment chez les gens qui sont fragiles au stress et à l'anxiété.
Ben,
de vivre ça comme si c'était la vraie vie. Et souvent, vous voyez, en rencontre, par exemple, il y a des parents qui vont me dire, j'ai beaucoup de mal à le sortir de ces jeux vidéo pour l'amener au devoir. Puis je dis tout le temps, oublie pas, lui, son cerveau, il sait pas, là. Il est dans un jeu vidéo, il est en train de se battre dans la vraie vie. Alors, présume, par exemple, que ton enfant est en train de combattre avec des copains, là, pour vrai, là, à grands coups de poing, tiens, dans la ruelle derrière chez vous. Est-ce que tu aurais idée de dire, arrête de te battre, là, viens, c'est le temps des devoirs?
Non, pas vraiment.
Tu comprendrais que ça prend un temps de repos, une coupure entre les deux.
Oui.
Même chose s'il était justement en train de combattre et que tu lui disais, bon, ben là, c'est l'heure d'aller au lit, ça fonctionne pas comme ça.
Oui.
Donc, faut ne jamais perdre ça de vue. Et puis, si vous me dites, le soir, là, quand je suis fatiguée, ben c'est là que j'ai tendance à tomber dans mon Netflix ou mon...
Oui.
C'est sûr, parce que le travail que fait l'écran au niveau de votre cerveau, il est en train de le garder captif et ça vous prend de la volonté et de l'attention
complètement
pour être capable de sortir de là. Donc, quand vous êtes fatigué, ben vous avez une baisse de volonté, une baisse de motivation, une baisse d'attention. Fait que là, vous êtes un parfait candidat
pour aller dormir
à l'écran. À l'écran.
Oui, c'est ça.
En fait, là, il vous garde encore plus, là, il vous tient par le collet, là, vraiment. Donc, personnellement, j'ai le même constat. J'ai remarqué que si j'ai le malheur d'ouvrir, par exemple, un Facebook ou un média social, quand je suis un peu fatiguée, tu sais, dans mon lit, c'est là que j'y perds le plus de temps. Puis à chaque fois, après, là, je suis fâchée contre moi, là. Parce que je me dis, là, je viens de perdre 10, 20, des fois, minutes qui auraient pu être du sommeil de qualité, finalement, ou qui auraient pu être consacrées à repenser à ma journée ou à penser à quelque chose de plus intéressant. Bref, parce qu'au final, j'ai rien appris qui m'éduque dans ma journée.
C'est exactement ce qui m'arrive. Mais du coup, Fulgence a une question pour vous. Mais moi, c'est exactement ce qui m'arrive qui fait que les heures passent, c'est pas des minutes. Et je me dis, j'aurais mieux fait de dormir tout de suite quand même. Voilà.
Moi, je me dis, Ariane Hébert, j'aimerais savoir effectivement cette histoire d'écran. La légende qui Ruben qui dit que 1 à 2 heures sans écran avant d'aller au lit, ça fait du bien pour le sommeil. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Parce qu'on dit que quand on regarde des images, on éteint la télé ou bien son ordi ou bien c'est là, et puis juste on va au lit, ça circule encore dans le cerveau.
Tout ce qui est écran, ordinateur, téléphone, iPad, ça c'est plus dramatique, disons-le comme ça, que la télévision, parce que la lumière bleue est plus importante dans ces écrans-là. Fait que la stimulation sur la rétine est du coup plus importante. D'autre part, comme je disais, si vous écoutez un film, il y a des films qui sont quand même plus tranquilles que ce que vous êtes plus susceptible de voir, la stimulation est moins importante, oui. Et vous ne pouvez pas flipper votre image là, à la télévision. Donc, il y a une certaine constance ou une certaine lenteur qui peut être davantage présente à la télévision que sur les autres écrans. Bien entendu, la recommandation ultime, c'est effectivement 2 heures, pas d'écran avant l'heure du dodo, tout écran confondu. Moi, j'aurais envie de vous dire, de mon point de vue, là, la télévision, ça reste une bonne alternative ou une alternative moins problématique, dramatique, là, que les autres. Oui.
Vous savez quoi? Moi, ma chambre à coucher, elle est interdite à mon cellulaire. Elle n'a pas le droit de... Mon cellulaire n'a pas le droit de mettre ses pieds.
Ah, mais moi, j'arrive pas à lui interdire.
Pas de cellulaire dans ma chambre à coucher. Point, c'est tout. Pas d'ordinateur non plus, rien. Moi, c'est mon lit, mes draps et moi, pour dormir.
Je me dis, ça va m'aider à m'endormir et c'est une grave erreur ce que je fais parce que, au contraire, j'ai envie de m'endormir, mais je me réveille pour suivre la suite de la série dans laquelle je me suis imbriquée.
J'ai un réveil.
Les excuses sont bonnes aussi. Hein? Le cellulaire sert de cadran le matin.
Oui, voilà. Il me sert de ça. Le matin, je me lève, je regarde l'heure.
Moi, j'ai un vieux cadran traditionnel. Là, avec, j'ai un vieux cadran que j'ai acheté. Là.
En tout cas, c'est sûr que qu'il faut y faire attention. Et c'est sûr que pour les yeux, je ne sais pas pour vous, dans le la dernière question, mais c'est je trouve que depuis qu'on s'est retrouvé tout seul, on a peut-être plus regardé. Moi, j'ai plus mal aux yeux maintenant que je l'avais l'année dernière.
C'est vrai.
Ouais, c'est possible en fait, mais puis effectivement, comme vous dites, le confinement, ça n'a pas été d'un grand secours là pour tout ce qui est en écran. En fait, il y a beaucoup de parents qui se sont retournés vers les écrans un peu en dépit justement parce que là, les enfants à la maison, puis tout ça, ouf. Hein? Alors, ça va être quelque chose qu'on va devoir travailler au plan collectif. Là. Ça sera peut-être le sujet d'une autre chronique, mais tu sais, apprendre à se comporter justement à travers les écrans. Là, l'univers social prend une dimension tout à fait différente quand les gens sont derrière leurs écrans.
Oui.
Et par exemple, pensons au fou du roi, le Danny Turcotte, là, qui a quitté tout le monde en page justement là, à cause des insultes qu'il recevait à travers les médias sociaux et tout ça. Et je pense qu'il va falloir non seulement apprendre à nos jeunes à gérer leur temps d'écran, mais apprendre c'est quoi les comportements sociaux qu'on devrait adopter aussi quand on donne ça entre les mains. Là. Mais ça, c'est l'objet d'une toute autre discussion, intéressante.
Mais qu'on fera aussi parce que ce que ça amène pour les adolescents là, de lire des choses horribles qui peuvent les amener à ne plus croire à ce qu'ils sont, je trouve ça dramatique. Donc oui, ça serait bien d'en parler aussi pour une prochaine fois.
Et voilà,
et pour l'instant, pour l'instant, on a fait les écrans. J'ai entendu ce que vous m'avez dit. Est-ce que ça va leur barrer la porte de ma chambre à coucher? Je vous dirai ça le mois prochain.
Il fallait pas que j'en parle. Hein.
Je vous dirai ça le mois prochain parce que pour l'instant, je ne sais pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Non, c'était super intéressant. Quelque part, on le sait, c'est bien qu'on nous le répète et qu'on nous le répète encore. On le dira jamais assez. Parce que ça devient tellement une habitude que c'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme prendre son café le matin, on est avec ça et puis c'est tout. Donc,
Merci à Ariane Hébert.
Merci Ariane Hébert, beaucoup. Et puis on se voit dans un mois, puis on verra le sujet que vous avez trouvé. Et si d'ici là, j'en ai d'autres à vous soumettre, ça va me faire plaisir de vous les envoyer.
Alors si elle déprime ici, je vais vous en vouloir.
Je ne déprime pas. Donc on part en musique avec Alex Berger. On dit Berger. Burger, plus grand que nature. Plus grande que nature.
Tu as peur que frappé un mur. porte puis ton nom. Me sentirais moins gnachant, me sentir en prison. As-tu appris à ton cœur comment je connais par cœur? Peux-tu apprendre à mon corps de faire sans toi tous les soirs?
Alors voilà, bien, merci beaucoup Ariane Hébert. Ben, nous en savons un petit peu plus là-dessus. Même si c'était des choses qui étaient répétitives, c'est curieux parce que quand je l'écoutais, ça me faisait plus peur pour les enfants que pour moi, alors que j'ai aussi un cerveau, enfin du moins j'imagine.
Tu as des yeux, tu as un cerveau, tu as des yeux.
Je pense qu'il est toujours là, malgré tout, mais ce n'est pas si facile.
Il faut le reconnaître, la pandémie a fait qu'il y avait beaucoup plus de consommateurs de...
Voilà. Oui. De ça, c'est un peu trop.
C'est pas toi seulement, il y a beaucoup de gens.
Restez avec nous, parce que là maintenant on parle environnement, Fulgence.
Environnement, en deuxième partie d'émission.
Allez.
Restez là.
Restez avec nous, à tout de suite.
Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
I'm hooked on that funky music.
But it's sound.
settle down and leave. Get on in there. I can hardly breathe. Don't do that. Don't mess me.
Don't. You lend a hand for me.
Yeah.
C'était Bastille de Bass et George Clinton, Baggy Head, Top Man. Voilà, c'est bien, ça swing avec ce genre de tube comme ça. Ouais, effectivement.
C'était ouais. Pour swinguer pour ton invité.
Ouais, avec. Ouais, c'est comme ça. On va parler un peu d'environnement. On a déjà notre invité au téléphone. Alors, je pense bien que chacun de nous est concerné. Là, je vous le dis tout de suite, c'est un forum. Je veux pas dire festival, un forum environnemental à Laval. C'est Laval en transition. Et nous avons la co-porte-parole Geneviève Dagneau qui est avec nous, qui va nous éclaircir un peu. Comme je lui avais dit ce matin au téléphone, c'est un de nos sujets de prédilection ici à
c'est
cette
vrai.
Émission. Bonjour Geneviève Dagneau.
Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Oui.
Je suis très heureuse d'entendre que ce soit un de vos sujets de prédilection, l'environnement.
Ah oui, complètement.
Ah oui. On est tout le temps là-dessus, presque la plupart de
souvent,
nous.
En tout cas.
Souvent, on en parle, voilà. Et alors, vous êtes depuis le 29 janvier jusqu'au 12 mars. Et tout ça, malheureusement, c'est virtuel. Malheureusement, c'est pas physique, on peut pas se déplacer.
C'est pas physique, non, malheureusement.
Ouais.
C'était prévu physique au départ, mais bon, étant donné les circonstances, non, c'est une belle activité.
On doit tous s'y faire.
On doit s'y
faire. Oui, on doit tous s'y faire.
On doit s'adapter, s'accommoder. Alors,
ça nous a permis d'étirer ça dans le temps plutôt que de faire ça sur une fin de semaine. Donc,
oui. Et avant de continuer avec Laval en transition, je précise rapidement, Geneviève Dagneau est co-porte-parole de l'événement. Elle est éco-designer stratégique et coach. Elle est depuis 25 ans dans le milieu environnemental.
Bravo.
Je dis bravo, hein. Voilà, ça c'est... Il faut le dire. Alors, c'est quoi Laval en transition?
Laval en transition, en fait, c'est un mouvement qui a été initié par les citoyens. C'est un mouvement par et pour les citoyens qui a été créé spontanément, en fait, en juin 2019 par l'instigateur qui est Alexandre Warnet.
Oui.
Et... c'est vraiment des gens qui ont simplement décidé de se rassembler, portés par leurs valeurs environnementales, mais qui voulaient vraiment agir pour la transition socio-écologique. Donc, d'essayer de poser des gestes, pas seulement individuellement, mais en se rassemblant pour se sentir moins seul aussi. Hein. L'île de Laval, c'est assez grand. Puis les gens, dans les différents quartiers, on ne se connaît pas nécessairement. Donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens de tous les autres quartiers, puis des gens qui sont aussi animés, puis aussi dédiés à poser des gestes, puis à être actifs. Alors, c'est vraiment... C'est le mouvement qui fait que c'est inspirant pour chacun de nous, puis qui nous porte aussi.
Ouais. Et cette première édition qui tourne autour de l'alimentation, des transports, de la consommation, de l'habitation et de l'utilisation des terres... Allez-y, un peu plus en profondeur, là. Comment vous faites pour mettre tout ça ensemble en même temps, quoi?
Ben, on a comme décidé, la belle gang de monde qui s'était réunie, il y a quelqu'un qui a lancé l'idée de faire un forum, et puis on a comme tout le monde a embarqué, donc on est allé chercher comme du financement pour pouvoir avoir quelqu'un qui rendrait un peu ça cohérent, là, faire une belle coordination.
Oui.
Et puis on a fait appel à des citoyens bénévoles pour discuter. Il y a eu des comités qui sont mis en place pour discuter des thèmes qui allaient être abordés, puis à travers chacun des thèmes, qu'est-ce qui allait être discuté, ce serait qui les panélistes, et puis faire des invitations. Alors tout ça, ça s'est mis en place graduellement à partir de mars l'an dernier, en fait. Ça fait déjà un an qu'on a quelqu'un qui travaille là-dessus, puis que les équipes se développent pour pouvoir trouver c'est quoi les questions les plus pertinentes, trouver c'est quoi les personnes les plus intéressantes à inviter pour faire des panels de discussion, puis trouver aussi comment décliner tout ça pour que ça se tienne un peu, puis donner un portrait, puis donner des sujets variés aux gens pour que ça touche un peu tout le monde à travers leur vie, dans le fond, parce que c'est tous des thèmes, on le fait par et pour les citoyens, donc c'est vraiment des thèmes de la vie de tous les jours, hein, l'alimentation, l'habitation,
oui,
la mobilité, le transport, c'est tout le monde, c'est tout le temps. Puis après, ben, la collectivité, c'est plus parce qu'on veut aussi, on veut essayer de faire en sorte que à travers les actions qu'on pose, on tisse des liens avec les gens autour de nous.
Vous voudriez bien me donner un exemple, par exemple pour s'alimenter autrement. Donc il y a des activités qui ont lieu sur l'alimentation, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître nos légumes, j'ai envie de dire, c'est ça?
Ben, ouais, ben dans la série, je pense, pour s'alimenter autrement, hein, il y a eu les panels sur la permaculture ou sur les jardins collectifs.
Ah, d'accord,
comment
bon, très bien.
Oui, c'est ça. Puis, à travers la Valentine Transition, il y a un groupe de réflexion sur l'autonomie alimentaire. Alors, c'est de se poser les questions, comment on veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour juste déjà exprimer, hein, ce qu'on veut comme citoyen, qu'on voudrait que ce qu'on mange vienne de proche de chez nous. Puis plus on va le dire, plus il va y avoir des gens qui vont tendre l'oreille, puis ça va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir de plus en plus, mais on le voit aussi dans les épiceries, hein, c'est une préoccupation. Donc c'est ça, c'est des petits gestes, c'est beaucoup de d'échanger, puis de sensibiliser, puis de porter la parole pour dire que ben il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qu'on, oui, peut faire comme citoyen qui sont simples. Puis quand on se rassemble, ben qu'on réussit à en parler comme ça, on réussit à faire même un forum comme ça.
Oui, puis on peut-être on sort aussi des idées reçues et puis on apprend d'autres choses, c'est bien pour ça aussi.
Oui, ben c'est ça l'idée, hein, c'est toujours d'informer aussi, de sensibiliser dans le sens où des fois, on est pris dans notre vie de tous les jours, hein, dans les rythmes de la vie moderne, et on pense pas nécessairement, mais des fois, il y a des petits gestes, des petits changements qu'on peut apporter, puis ça fait une différence au bout de la ligne. Donc, c'est ça qu'on veut essayer de porter à l'attention des gens.
Complètement. Ben, l'effet de groupe est extrêmement stimulant, puis ça peut agir aussi en haut lieu quand on fait des demandes, et pour toutes sortes de choses d'ailleurs.
Ouais. La Valentine Transition, oui.
Merci,
écologie, économie locale, communauté.
Ben,
vraiment, c'est intéressant. Parce que,
oui,
là, et puis, c'est la première édition. Je pense que vous allez continuer comme ça après la...
Ah,
ça va être chaque année, un forum, chaque année.
Oui, et puis c'est drôle parce que les gens disent « Ah ouais, Laval, on n'aurait pas pensé que vous ne sortez pas comme une ville où il y a une sensibilité pour l'environnement en général. » Puis les gens s'intéressent au fait que oui, ben, ça se passe partout en fait. Maintenant, on fait partie aussi du réseau Demain le Québec, hein, parce qu'il y a plein de communautés en transition un peu partout sur le territoire. Donc, c'est de se rassembler comme ça qui est une force.
Oui.
C'est
alors,
super.
Voilà, on va écouter, on fait une petite pause musicale, et puis on va revenir préparer la réponse
et après,
avant.
Les séries des questions.
Voilà, il y a d'autres questions qui vont venir encore. D'autres conversations vont continuer. J'avais pas des questions. Tout à l'heure, on va en musique avec Bombolissé, Not Cumbia Anymore.
Que gustaba solo cumbia, así que no te cambies a rubia. Por eso natural, te beaucoup plus belle.
Quiero una chica con sabor.
No le quites a tu plato la pimienta, ni te vistes como 80. Tes vraies habitudes font ton attitude.
Quiero una chica con ronuda.
I am not from Canada, mais j'essaye d'être québécois. Soy un immigrante, descubriendo Montréal. Soy un immigrante, perdido. Que si puede, si suele inmigrar y se va a otro lugar. Inmigrante, que si puede, si suele inmigrar y se va a otro lugar. Me dejaste como llegaste.
Sin motivo ni razón.
Eres mi rompecorazón.
Eres mi rompecorazón.
I am not from Canada, mais j'essaie d'être québécois.
Soy un inmigrante descubriendo Montreal. Soy un inmigrante descubriendo Montreal. Inmigrante, que si puede, si suele inmigrar, hice para otro lugar. Inmigrante, que si puede, si suele inmigrar, hice para otro lugar. Hice para otro lugar. Hice para otro lugar. Hice para otro lugar. Hice para otro lugar.
C'est Not Cumbia Anymore. Alors, Geneviève?
Oui.
Oui, on est. Ouais, je me suis dit, elle est encore là. Bon, il y a quelque chose qui est déjà passé qui m'a fait. J'imagine, il faut que je lui demande. Rêvons Laval 2050 qui a été l'occasion de réfléchir à l'avenir de la ville. Comment on est en 2021 là? Comment planifier déjà comme ça ce qui va arriver en 2025 à la ville de Laval?
En
2050, pardon.
C'était un exercice de co-design participatif. Donc, c'était un exercice qu'on appelle, qui utilisait la méthode prospective. Alors, c'est une méthode qui a été développée il y a très longtemps, là, par plusieurs chercheurs en France, en Europe. Et c'est une méthode, en fait, qui essaye de réfléchir en regardant justement c'est quoi les évolutions, puis c'est quoi les signaux faibles qui sont dans la société en ce moment, qui pourraient évoluer, puis qui pourraient devenir des tendances ou des pratiques plus importantes, puis quel effet ça aurait. Donc c'est vrai, ça peut avoir l'air de, c'est pas de la prédiction, là, mais c'est vraiment, on essaye de voir si ces tendances-là émergent, comment ça peut transformer la société, puis de quoi ça aurait l'air. Donc on peut se reporter dans 30 ans, parce que si on essaie de se reporter dans 10 ans, des fois c'est difficile parce que les projets sont déjà pensés. On peut penser au REM, on peut penser, hein, tu sais, c'est des projets à long terme, structurants, puis les gens ont déjà investi leur argent, donc c'est difficile de changer vraiment le fond des choses. Mais si on se reporte plus loin, ben on peut essayer de se dire, OK, ben moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça, le monde dans lequel je veux vivre.
Oui.
Comment on peut y arriver en partant aujourd'hui? Puis là, ça nous donne le temps de trouver les voies d'accès, en fait, le chemin pour s'y rendre.
Pour s'y rendre en 2050.
Ouais.
Ouais.
Oui, parce que ça va venir, 2050.
Ça va vite, hein?
Je ne serai peut-être plus là pour le voir, mais...
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Mais en même temps, oui, c'était justement quand Fulgence en a parlé, ça m'a amené à ce que j'avais regardé sur votre site, vers un aménagement urbain socio-écologique. C'était ça.
Oui, mais c'est vraiment intéressant. Et puis les enfants ne sont pas oubliés, hein, dans la programmation. Pendant la semaine de relâche aussi, il y a l'école de transition qui offre des activités virtuelles en lien avec la... Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît.
Ça, c'est bien.
Ben, en fait, c'est une école de la transition, une petite école qui a été mise sur pied pour faire justement des activités avec les enfants pour que, à partir de tout petit, hein, on les initie à des façons, des gestes différents. Donc, c'est ludique, mais en même temps, à travers ça, on leur apprend à être plus en contact aussi avec la nature, à être plus proche de la vie, puis de voir un peu, de changer leur regard pour leur faire faire des activités qui sont différentes de ce qu'ils feraient dans d'autres camps de jour ou dans des à l'école comme telle.
À sortir leurs yeux des écrans.
Ben, entre autres, oui, effectivement, parce qu'on les initie très très jeunes aux écrans, hein, mais il faut vivre aussi à l'extérieur de ça.
Oui. C'est gratuit, ces événements pour les enfants. Sinon, les autres conférences sont payantes à $5 chacune.
Exactement. Bien, il y avait la possibilité de se procurer un passeport au mois de janvier pour pouvoir avoir accès à toutes
conférences. À toutes les conférences jusqu'au 12 mars.
Oui, exact. Puis après ça, même, il y a une possibilité pour ceux qui ont acheté des passeports, il y a une rediffusion. Mais sinon, sur l'ensemble des activités, il y en avait quand même plusieurs qui étaient gratuites, comme la conférence d'ouverture. Et puis, le lendemain matin aussi, il y avait un café inspirant, là, le 30 janvier. Ça aussi, c'était gratuit. Dans l'ensemble, je pense qu'il y avait 8 activités qui étaient gratuites, dont évidemment les activités participatives. Le Rêvons Laval 2050, c'était le premier samedi dernier, mais il y en a d'autres qui suivent là, sur divers sujets, puis pour passer de l'idée à l'action aussi, justement pour essayer de voir quand les citoyens ont des idées, comment on fait pour que ça se concrétise facilement, rapidement, quels soutiens ils ont besoin. Puis...
Oui, oui. Alors, une autre question, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il faut être résident de Laval pour approcher ce mouvement, ou bien, moi je suis de Montréal, Arlette est de Montréal, notre monsieur derrière la console aussi est de Montréal. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et puis, bon, là, ça nous intéresse. On va voir l'organisme. On veut assister aux réunions et puis participer à cet événement environnemental, quoi. À vos réunions, s'inscrire.
Ben, le mouvement, en fait, est ouvert. C'est un mouvement citoyen. Il n'y a pas d'inscription. C'est sûr qu'il y a des membres de l'OBNL qui coordonnent le forum, mais sinon, c'est un mouvement citoyen. Alors, si les gens de partout veulent venir nous prêter main forte.
Peu importe la résidence, le lieu de résidence.
Ben,
oui, oui.
Ben oui, on est ouvert. C'est un mouvement en plus qui est devenu inclusif. Donc, bienvenue à tout le monde. Oui, bienvenue à tous.
Oui. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis allé sur votre site, là, c'est votre approche. Là. Vous cherchez un équilibre entre la tête, le cœur et puis les mains. Et c'est...
Oui.
Allez-y, donnez-nous un peu, un peu de détails là-dessus.
C'est l'approche, c'est pour dire que c'est global aussi, hein. C'est une approche un peu holistique de dire que c'est pas juste de penser à nos actions, mais c'est de le faire avec notre cœur, puis de le faire avec l'ouverture vers les autres, puis d'accepter aussi les idées des autres. Mm-hmm. Puis les mains, ben c'est pour le faire, c'est pour partager ensemble aussi, c'est pour se rassembler puis passer à l'action. Donc, on veut toujours que... On aimerait que quand on pense à une action, on soit capable de la faire passer par le cœur pour ensuite être capable de la mettre en action avec nos mains, comme planter des arbres, comme faire des ramassages de déchets, comme faire des formations, des ateliers de réparation, ou tu sais, de transmettre des savoirs avec ça.
Ouais.
C'est une jolie idée.
Oui. Je dis, comme je l'ai dit en début d'émission, de l'entrevue d'ailleurs, éco-designer, stratégie et coach, et puis elle est ingénieure de formation, elle donne des conférences aux entreprises concernant les enjeux actuels, la planète, le mieux-être collectif. Mais à travers votre expérience personnelle, depuis plus de 25 ans, vous êtes dans ce milieu-là, comment vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que la nature ou bien notre planète aille mieux? Individuellement.
Mon Dieu, c'est une vaste question.
Ouais, individuellement. Rapidement, quoi. On est presque à la fin de... Voilà.
Oui, c'est sûr qu'individuellement, hein, c'est toujours de penser à son petit coin de terre, là, de se l'approprier, puis de le respecter, d'essayer le moins possible d'utiliser des produits chimiques, des pesticides, bon, tout ça sur son terrain, etc. Mais je pense que c'est aussi peut-être collectivement de penser que si on est capable de rassembler tous nos efforts puis d'aller sur Mars, hein, on parle beaucoup là, de l'exploration qui se fait sur Mars actuellement. C'est très médiatisé, c'est très bien, c'est incroyable tout ce qu'on est capable de faire. Mais moi
je veux rester sur Terre.
Ben, j'aimerais qu'on fasse ça.
Oui.
J'aimerais qu'on fasse ça puis qu'on mette tout notre savoir puis toute notre intelligence sur notre planète, à la respecter, à l'aimer, à la comprendre, à comprendre les cycles de la nature pour les intégrer dans notre vie parce qu'en fait, on fait partie là, de ce cycle-là. Puis...
Tout à fait.
Merci
c'est
beaucoup.
C'est notre air hein, qui en dépend, c'est notre vie à nous.
Merci beaucoup, Geneviève Dagneau, co-porte-parole de Laval en transition. C'est jusqu'au 12 mars. Allez-y sur le titre Laval en transition en un seul mot, c'est bien ça. Hein?
Oui, c'est effettransition.ca. Puis bienvenue à tous, à toutes les activités qui sont encore au programme. Il y a plein de belles découvertes à faire. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli.
C'est le nom qui vous remercie. La porte vous est ouverte. Vous pouvez nous rendre visite s'il y a des projets dont vous aimeriez parler. N'hésitez pas.
Oui, nos prochains projets, bien sûr.
Voilà. Bonne fin de journée à vous.
Au revoir, Geneviève.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
J'ai chanté le blé comme on chante la pomme. J'ai décroché la lune comme on décroche un diplôme. J'ai changé de chant comme on change d'idée trop souvent. J'ai défriché la chair de celle que j'aime. Depuis le secondaire, si le vent souffle encore en revenant, oublie pas de fermer la porte, puis d'embrasser les enfants. Si le vent souffle encore en revenant. J'ai lu dans les feuilles mortes que je partirai pour longtemps. J'ai pelleté des nuages comme mes aïeux ont pelleté des hivers. J'ai chassé l'orignal comme on chasse les pensées les plus noires. J'ai semé des ruisseaux, j'ai récolté une saison de trop. Même si le temps est court, à la tombée du jour, la vie vaut le détour. De fermer la porte, puis d'embrasser les enfants. Si le vent souffle encore en revenant, j'ai lu dans les feuilles mortes que je partirai pour longtemps.
Hervé Goulet, si le vent. Ouais. Arlette ?
Eh bien oui, nous arrivons à la fin de cette émission.
À la fin de cette émission.
Donc,
on dit merci à nos invités, à nos auditeurs.
Ariane Hébert.
Oui.
Psychologue.
Ouais. Elle, elle est de la maison maintenant.
Oui.
Ouais. Et Geneviève Dagnot, co-porte-parole de Laval en transition. C'est un forum qui a débarré le 29 janvier jusqu'au 12 mars.
L'une comme l'autre, chacune dans leur sujet, était très intéressante.
Oui.
D'ailleurs, message personnel à Ariane, si vous écoutez jusqu'au bout, j'ai fermé ma tablette avant la fin. Pour essayer de faire un petit effort et de gagner 5 minutes.
Arlette Farah.
Voilà.
Ok, allez.
Donc,
merci à
merci
Maurice.
À vous toutes
c'est
et vous
notre
tous.
Complice derrière la console, Maurice Bolduc.
Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre.
Oui.
Donc on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. Et cette
ou
fois,
d'autres sujets.
Et d'autres sujets aussi également, oui. Bien sûr, évidemment. Parce que sinon, si on reste toujours sur le même sujet, vous allez vous lasser, et nous
Arlette,
aussi.
Arlette, n'oublie pas que demain, c'est le deuxième, c'est le match de retour de Paris Saint-Germain contre le Barça.
Allez
bon, voilà.
On va le disputer.
Allez, bonne soirée à vous.
Bonne soirée à vous
Arlette,
tous.
À demain.
Merci Maurice Bolduc pour les chansons. Fulgence, à demain.
Ah ouais.
Et puis, on se retrouve. Même heure, même endroit.
Ouais.
Bye bye.